Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Présenté par Liliane Niacha et Francis Laloupo. Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Bonjour, j'espère que comme Francis Laloupo, vous avez passé une excellente semaine. Bonjour Francis.
Bonjour Liliane, j'espère que vous avez passé une excellente semaine vous aussi.
Oh oui, mais en tout cas, j'ai déjà annoncé aux auditeurs que je vous ai senti en pleine forme, non ?
Ah ben oui, et puis vous êtes éclatante de forme puisque je vous vois sur l'écran.
Merci à vous. Après un premier rendez-vous manqué officiellement à cause d'un problème météorologique, le Premier ministre malien Soumaïlou Boubey Maïga s'est finalement rendu à Kidal le 23 mars dernier. Le leader de l'opposition Soumaïla Cissé a parlé de tournée de communication à 3 mois de la présidentielle et qu'elle ne résout rien, alors que Yad Ar Mohamed, porte-parole de la CMA qui contrôle Kidal, a qualifié ce déplacement du Premier ministre de mesure de confiance forte. Que va-t-il se passer ? Y aura-t-il un après 23 mars ? Analyse à suivre. Le Forum national boycotté par l'opposition et une partie de la société civile tchadienne s'est soldé par une série de décisions dont la suppression du poste de Premier ministre et de certaines institutions. Il y a aussi le passage de 5 à 6 ans de la durée du mandat du président de la République renouvelable, une seule fois à partir de 2021. Fallait-il entreprendre ces réformes du système politique au Tchad ? Les réponses divergent et on entendra celles de nos invités. Au moment où nous enregistrons cette émission vendredi, les médias d'État égyptiens affirment que le président sortant Abdel Fattah al-Sissi a remporté la présidentielle de cette semaine avec 96,9% des voix devant son seul adversaire Moussa Mostafa Moussa qui aurait recueilli lui 3,1% des voix. Le taux de participation principal en jeu de cette élection serait de 42,8% selon le quotidien égyptien Al-Aram. Plébiscité peut-être, mais quelle sera donc la légitimité du président réélu ? On entendra là aussi nos invités. D'abord, Francis Laloupo nous les présente.
Oui, notre grand témoin invité dans cette édition au téléphone depuis Bamako, Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, porte-parole du gouvernement du Mali. Amadou Koïta, monsieur le ministre, bonjour.
Oui, bonjour Francis.
Oui, merci d'être avec nous. Autre invité dans cette édition, notre confrère Mahamat Adamou au téléphone depuis N'Djamena au Tchad, journaliste indépendant tchadien, ancien rédacteur en chef de BBC Afrique. Mahamat Adamou, bonjour.
Bonjour Francis.
Merci d'être là. Petite fiche de présentation, comme de coutume, de notre grand témoin invité, Amadou Koïta, inspecteur des finances. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en gestion de l'ENA, l'École nationale d'administration du Mali. Ancien leader et studentin, président fondateur du Parti socialiste du Mali, le PS Yélène Koura. Vous avez été investi 5e adjoint au maire de la commune 3 de Bamako, chargé de la jeunesse, des sports, de la culture, des arts et du partenariat. Vous avez successivement occupé les postes de chef de cabinet adjoint à la primature et de chef de cellule de décentralisation et de la déconcentration au ministère de l'économie et des finances. Vous êtes donc actuellement en charge du ministère de la jeunesse et de la construction citoyenne, en même temps que vous exercez la fonction de porte-parole du gouvernement du Mali. Amadou Koïta, vous serez donc notre grand témoin dans cette édition du débat BBC Afrique, Africa numéro 1, Paris. À vous, Liliane à Dakar.
Merci. Et Francis, on commence avec le Mali. En 5 jours, le Premier ministre Soumaïlou Boubey Maïga a visité Koro, Bankass, Badiangara, Djéné dans le centre du pays, Tessalit, Gao, Tombouctou et surtout Kidal dans le nord du Mali. Et c'est dans cette dernière ville que l'un de ses prédécesseurs, Moussa Mara, avait essuyé une attaque en 2014 lorsqu'il s'y était rendu. Cette fois, Soumaïlou Boubey Maïga a visité Kidal sans incident, même si le premier rendez-vous a été manqué. La localité hostile est en effet considérée par certains Maliens comme une enclave, un état dans un état malien confronté à de récurrentes attaques dans le centre et le nord du pays. Monsieur le ministre Amadou Koïta, la question que l'on se pose est celle de savoir s'il y aura un après vendredi 23 mars, date à laquelle donc le chef du gouvernement malien a visité Kidal. Quelles sont précisément aujourd'hui et à long terme aussi les réelles retombées de ce déplacement, notamment pour le processus de paix problématique au Mali?
Je vous remercie. Je salue les auditeurs et les auditrices de BBC et d'Africa numéro 1. Effectivement, comme vous l'avez dit, le Premier ministre a la tête d'une forte délégation composée d'une dizaine de ministres, des honorables députés, et rendu respectivement à Tessalit, Kidal, Tombouctou, Gao et dans le centre, Mopti, Banyangara, Bankass, Koro et Djéné. L'étape de Kidal était une étape extrêmement importante. le Premier ministre était porteur du message du président de la République, son excellence Ibrahim Keïta. Il était un message de paix, un message de réconciliation, un message de cohésion, un message d'unité. Nous avons été accueillis avec enthousiasme. L'accueil fut plutôt cordial, fraternel. Nous avons rencontré tous les acteurs impliqués dans le processus de paix. Comme vous le savez, le Mali a signé un accord pour la paix et la réconciliation nationale avec les mouvements armés, notamment la CMA et puis la plateforme. À Kidal, les échanges ont été fructueux. À Kidal, nous n'avons parlé que du Mali. À Kidal, nous n'avons parlé que de la paix. À Kidal, nous n'avons parlé que de la sécurité. À Kidal, nous avons également parlé des questions de développement.
Monsieur le ministre, là on est sur la forme, mais dans le fond, qu'est-ce qui va changer après cette date? Est-ce que, par exemple, l'armée et l'administration malienne seront bientôt déployées à Kidal?
Oui, l'administration est déjà à Kidal. Le gouverneur du Mali est déjà à Kidal. Maintenant, c'est un accord, c'est un processus. Vous savez, la paix est un processus. Une feuille de route vient d'être signée entre le gouvernement et les mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Le plus important aujourd'hui, il y a le retour de la confiance entre les acteurs impliqués dans le processus. Et donc, le plus important, nous avons senti, les populations l'ont exprimé, les différentes courses de forces vives de Kidal l'ont exprimé, les jeunes, la CMA, la société civile, ils ont tous souhaité une présence plus significative de l'État. Ils ont souhaité le retour des services de sociaux de base. Donc, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, c'est un nouveau vent qui souffle, puisque c'est la confiance qui renaît entre les différents acteurs. Ils ont tous souhaité se donner la main, puisque l'ennemi aujourd'hui est connu. Ce sont les forces du Mali, ce sont les terroristes qui essayent de mettre le processus de paix en cause.
Dans des terroristes, dans les membres de la CMA n'en font plus partie. Ils sont plus considérés comme un groupe dangereux pour la paix ou hostile pour la paix au Mali.
Oui, bien sûr, les terroristes sont là, mais les mouvements signataires aujourd'hui sont dans le Mali, reconnaissent le Mali, reconnaissent l'unité du Mali, reconnaissent l'intégrité territoriale du Mali, reconnaissent la force du Mali et républicaine du Mali, et reconnaissent également la souveraineté de l'État malien. Je crois que c'est le plus important. Aujourd'hui, il s'agit de créer les conditions pour la mise en œuvre de cet accord, aller au DDR, aller également à travers le mécanisme opérationnel de coordination, aller également à des actions. En mutualisant tous nos efforts pour qu'ensemble nous amenons la sécurité, pour qu'ensemble nous amenons la stabilité et pour qu'ensemble nous amenons les actions de développement. Aujourd'hui,
merci.
Les mouvements signataires sont impliqués dans ce processus de retour de la paix et ce qui est salutaire. Voilà pourquoi le peuple malien, dans sa majorité écrasante, a salué cette visite du Premier ministre sur le nouveau Niger. C'est une mission qui s'est déroulée dans le calme, dans la sérénité. Un seul coup de feu n'a pas été tiré. Au contraire, les populations ont accueilli la délégation avec beaucoup de ferveur, avec beaucoup de joie. Donc, nous pouvons dire qu'un nouveau vent souffle sur le Mali. Le vent de la paix, le vent de la stabilité, le vent de la réconciliation, le vent de la retrouvaille des enfants de ce pays.
Oui, monsieur le ministre, comme vous le savez, tout le monde n'a pas cette même lecture de cette visite, pardon, de cette tournée du Premier ministre dans le Nord. Il ne nous a pas échappé que Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition à l'Assemblée nationale, s'est montré très critique à l'égard de cette tournée. Pour lui, il s'agit d'une simple opération de communication. Et il a indiqué que la visite à Kidal a été, je le cite, négociée à coup d'argent, à coup d'intervention de la MINUSMA, de la France, de l'Algérie, des États-Unis. Je ne pense pas, dit-il, que cela ait réglé quelque chose. Quel est votre commentaire à cet égard, à ce propos?
Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qui porte le Mali dans le cœur, tous ceux qui ont une grande patriotisme ont salué cette visite. Effectivement, nous avons des partenaires tels que les Nations Unies, la MINUSMA, qui est là pour appuyer le Mali, pour le retour de la paix, pour appuyer le Mali, pour la stabilité. Nous avons des partenaires également comme la France. Bref, tout ce qui nous aide pour que nous puissions retrouver la paix, pour que nous puissions retrouver la stabilité, pour que nous puissions ensemble combattre ce terrorisme.
Oui.
Je pense que nous saluons toutes ces bonnes initiatives. Vous savez, la paix est un long processus.
Oui, alors,
c'est une opération de communication. C'est quand même une déclaration de trop.
De trop, vous dites. Hein. Oui. Pour vous, c'est une déclaration de trop, celle de Soumaïla Cissé.
C'est vraiment une déclaration de trop. Parce que quand on est dans ce pays, aujourd'hui, le terrorisme est un phénomène mondial. C'est un mal du monde. Qui veut les hommes qui veulent aujourd'hui mettre en danger pour vivre ensemble. La civilisation universelle. qui, ensemble, décidions de nous donner la main avec ce mouvement, avec les groupes qui sont impliqués dans le processus de paix. Je pense que tout malien, tout homme écrit de paix et de justice doit saluer cette visite, doit saluer cette bonne initiative.
Mmh. On a quand même observé au sein de l'opinion Amadou Koïta un certain scepticisme quand même, parce que bon, il faut rappeler aux auditeurs que c'est la première fois qu'un Premier ministre malien se rendait à Kidal depuis 4 ans. Et cette visite, on l'a bien observé, a été plutôt laborieusement négociée avec les éléments de la CMA et de la CMA, pardon. Est-ce que les Maliens n'ont pas eu le sentiment que leur ministre, leur Premier ministre, entrait dans Kidal comme sur un sol étranger?
Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Nous sommes allés rencontrer des Maliens, comme nous l'avons fait à Kidal, comme nous l'avons fait à Kidal, comme nous l'avons fait à Dao et à Tombouctou. Vous savez, nous sommes un peuple, on dit une fois. Nous sommes un seul peuple.
Oui.
Nous sommes allés avec respect, nous sommes allés avec humilité, nous sommes allés également en considérant que c'est des frères que nous allons visiter pour qu'ensemble, être à l'écoute également de leurs attentes et de leurs préoccupations. Je l'ai dit, c'est la question de santé qui a été posée, c'est la question d'éducation qui a été posée, c'est la question d'accès à l'eau, c'est la question d'accès à l'électricité, c'est la question du développement des infrastructures. Là, le Premier ministre a souhaité qu'ensemble nous donnions la main, puisque la sécurité peut être de développement.
Est-ce que désormais, Kidal est totalement réintégré dans le territoire, dans l'ensemble malien?
Bien sûr, Kidal a toujours été dans l'ensemble malien.
Oh. C'est vrai, il y a eu des difficultés. Il y a un statut particulier.
À partir du moment où nous sommes dans un processus.
Liliane?
Nous sommes dans un processus. Il y a connu ses hauts et ses bas. Aujourd'hui, il y a le retour de la confiance entre les différents acteurs. Nous devons saluer cette initiative.
Mais certains estiment qu'il y a beaucoup trop d'enthousiasme pour très peu, monsieur le ministre.
Non, vous savez, pour la paix, on doit avoir beaucoup d'enthousiasme. Pour la stabilité, on doit avoir beaucoup d'enthousiasme. Pour lutter contre le terrorisme, on doit avoir beaucoup d'enthousiasme. C'est les enfants maliens qui tombent chaque jour.
Mais vous êtes en train de dire aussi que l'élection présidentielle de juillet prochain va se dérouler dans le calme, dans ces régions, notamment à Kidal?
Bien sûr, l'élection va se dérouler dans le calme, dans la sérénité, dans toutes ces régions. D'ailleurs, l'enrôlement est en cours à Kidal pour enrôler les futurs électeurs afin d'avoir affiché la liste électorale. Les acteurs à Kidal, que ce soit la CMA, que ce soit la société civile, que ce soit la ville, que ce soit l'armée locale, qui est quand même le chef traditionnel de Kidal, se sont tous engagés à ce que la fête de la démocratie ait lieu le 25 juillet.
Merci.
Les conditions seront réunies pour que nous ayons une élection transparente, une élection crédible, une élection qui va honorer le Mali et la démocratie.
Qui sera sécurisée par les ex-rebelles de la CMA, j'imagine.
Vous savez, c'est les mouvements armés qui ne sont pas mouvements armés, les mouvements signataires aujourd'hui, qui sont dans le processus de paix. Le processus de cantonnement va commencer sous peu. Donc, c'est les conditions qui seront...
Sous peu, c'est-à-dire quand exactement? Avant l'élection du 29 juillet prochain?
Bien sûr, avant l'élection du 29 juillet, le processus de cantonnement a déjà commencé à travers le mécanisme opérationnel de coordination. Donc, ça a démarré. La confiance est de retour. D'ici l'élection, toutes les conditions seront réunies à partir du moment...
La CMA sera donc toujours armée au moment des élections.
Je posais peut-être la question autrement, Francis. Donc la CMA aura désarmé et tous les autres groupes rebelles auront désarmé avant la tenue des élections présidentielles du 29 juillet.
Il y a le cantonnement, il y a le BDR, qui est le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et l'intégration.
Avant juillet.
Il y a d'autres qui vont intégrer l'armée malienne. Donc je pense que tout ça est dans l'accord. Donc c'est la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Accord aujourd'hui qui est également pareil comme par la communauté internationale. Donc je pense que c'est un salut, c'est cette action est salutaire. Et elle a été saluée par tous les hommes et les femmes et tous les pays. Et le peuple malien s'est encore senti plus que fier.
Merci beaucoup. Monsieur le ministre, on va écouter Mahamat le temps qu'on essaye de joindre notre invité sur une autre ligne parce que celle à travers laquelle il s'exprime en ce moment n'est pas très audible. Donc, on va essayer de vous rappeler sur une autre ligne, monsieur le ministre. Mahamat, alors, vous venez d'entendre, je parlais d'enthousiasme, certains disent même démesuré, du gouvernement malien après la visite du Premier ministre Soumaïlou Boubé Maïga à Kidal. Est-ce que vous êtes aussi optimiste que le ministre Koïta?
Je suis d'accord qu'une simple visite ne peut pas régler un problème aussi complexe.
Mais il a également raison de dire qu'il faut mettre un peu d'enthousiasme, y mettre de son cœur et faire montre de bonne volonté. Maintenant, comme j'ai dit, le processus est très complexe et il faut plus qu'une simple visite.
Oui, parce que certains disaient que Francis a parlé tout à l'heure de Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition, qui parlait d'opérations de communication. D'autres Maliens dans la presse disent même qu'il s'agit d'une visite politique personnelle pour le Premier ministre Soumaïla Boubou Maïga, qui voulait renforcer son pouvoir en montrant, par exemple, aux yeux de la classe politique malienne, qu'il est l'homme fort et qu'il contrôle la situation beaucoup mieux que ne le fait Moussa Mara en 2014 quand il s'est rendu à Kidal.
Mais ce qui est tout à fait légitime, je veux dire qu'il faut qu'il puisse asseoir son autorité et voilà, dire que c'est lui qui mène la barque. C'est tout à fait naturel, je ne vois pas pourquoi on doit critiquer cela. Maintenant, quant à ce qui est de l'intention, si c'est politique ou si c'est sincère, il n'y a que lui qui pourra répondre.
Monsieur le ministre est revenu.
Non, pas encore pour le moment. Est-ce qu'il nous entend? Est-ce que vous entendez, Monsieur Koïta? Allô, Monsieur Koïta? Manifestement, pas encore, Francis. Mmh. Oui. On va peut-être, si vous voulez bien, Francis, continuer avec Mahamat Adamou.
Mmh. Allez-y. Allez-y.
Oui, Mahamat, alors la tournée a permis au Premier ministre d'inaugurer certaines infrastructures sociales. On a même annoncé la construction d'une université dans la région, notamment du centre du pays. Est-ce que vous pensez que ces infrastructures peuvent survivre si la paix ne revient pas? Parce que certains estiment qu'il y a eu des attaques contre des infrastructures et construire une université n'était pas la bonne chose à faire pour le moment où il n'y a pas encore de sécurité.
Il est vrai que c'est des...
On parle d'une université à Badiangara notamment.
Il ne sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord asseoir, consolider la paix. Et ces régions, évidemment, en matière de développement, il y a beaucoup à faire, mais la priorité, naturellement, c'est de ramener la paix.
D'accord. Francis, le ministre est revenu. Vous entendez, monsieur le ministre?
Oui, je suis revenu.
Alors, j'ai juste le temps de vous poser une question avant la pause. Hein. Soumaïla Boubou Maïga s'est également rendu dans le centre du pays. Et bon, on le sait, hein, c'est une région qui est en proie à des violences depuis quelque temps. Il y a promis d'envoyer 10 000 militaires pour protéger les populations contre les djihadistes. Alors, dites-nous, quand cette promesse sera-t-elle réalisée? Est-ce que l'armée malienne est actuellement en capacité de faire face seule aux violences en cours dans cette région, dans le centre? 10 000.
Mais comme vous le savez, l'armée malienne est en train de monter en puissance. Aujourd'hui, notre armée est en train d'équiper le centre à travers un maillage territorial.
Hey.
Comme vous le savez, on est en train de détruire progressivement les bases des terroristes. Nous l'avions fait à Dialoubé, nous l'avions fait à Tafaradé. Aujourd'hui, l'armée malienne monte en puissance. Mmh. Et le besoin exprimé par les autorités militaires, ce besoin sera satisfait, puisque la sécurité n'a pas de prix. Le rôle de l'État, la mission de l'État, c'est de protéger les Maliens et les Maliens et leurs biens.
À quelle échéance enverrez-vous ces 10 000 militaires dans le centre du pays? À quelle échéance?
Oui, en tout cas, les discussions sont en train d'être prises. Ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder.
Dans un mois, dans deux semaines, dans trois mois?
Je ne peux pas vous dire un délai exact, mais je sais une seule chose. Les officiers supérieurs de l'armée, en parfaite collaboration avec les autorités politiques, sont en train de travailler, puisque les populations ont exprimé ce besoin. Nous avons tout simplement demandé aux populations d'accompagner les forces armées dans cette lutte, puisque la lutte contre le terrorisme n'est pas une lutte facile, ce n'est pas une guerre conventionnelle. Il s'agit des hommes et des femmes qui souvent se mélangent à la population. Donc nos forces armées ont besoin de renseignements, d'où également l'implication des populations.
Merci, on va marquer une pause obligatoire.
La peur est en train de changer de camp. Ah. Hein, la peur est en train de changer de camp. Aujourd'hui, c'est l'offensive de l'armée malienne.
Merci.
Aujourd'hui, nous sommes en train de sécuriser de façon progressive. Inch'Allah, d'ici les élections, le Mali sera sécurisé.
Merci, monsieur le ministre.
Le débat. BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris. Le débat, Liliane Niacha et Francis Laloupo.
Avec notre grand témoin invité depuis Bamako au téléphone, Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, porte-parole du gouvernement du Mali. Notre invité dans cette édition, un confrère au téléphone depuis N'Djamena, Mahamat Adamou, journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de BBC Afrique. On continue donc de parler de cette actualité malienne avec vous, Amadou Koïta. Le 23 mars dernier, le porte-parole de la CMA, de la coordination des mouvements de la Zawad, Ilag Ag Mohamed, a estimé qu'il faudrait désormais inclure dans les négociations de paix Yad Ag Gali, qu'on connaît bien, c'est le chef djihadiste malien. Car, dit-il, si Yad Ag Gali fait partie des solutions pour régler définitivement le problème du Mali en général, je ne vois pas d'inconvénient à ce qu'il intervienne d'une manière ou d'une autre. Fin de citation. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Est-ce qu'il faut étendre le règlement de la crise au groupe, à certains groupes dits djihadistes? Parce que c'est quand même un de vos partenaires dans cet accord de paix qui le dit.
Non, je pense que tous ceux qui ont les mains tachées de sang, tous ceux qui ont porté atteinte à la vie des Maliens et des forces étrangères qui sont venues nous appuyer, ne peuvent pas participer à la négociation. Les terroristes sont des terroristes. Maintenant, ceux qui se sont trompés, ceux qui ont pris les armes, parce qu'ils ont été trompés, mais qui n'ont pas les mains attachées de sang, nous sommes prêts à les accueillir. Nous sommes prêts également à créer les conditions d'élargissement de certains qui sont arrêtés, à condition qu'ils renoncent à la violence.
Donc, Yad Ag Gali, cette éventualité est écartée définitivement.
Yad Ag Gali est un terroriste, et un terroriste mérite d'être combattu. Et l'armée malienne et les forces alliées telles que Barkhane et l'aménagement, nous travaillons pour neutraliser toutes les forces du Mali.
Très bien.
Mais, monsieur le ministre, le Premier ministre Soumaïlou Boubaï Maïga a également rencontré deux communautés qui s'affrontent dans le centre du pays. Quel est le message qui a été transmis par le gouvernement? Parce qu'on entend l'une de ces communautés, par exemple, dire que le gouvernement n'a pas réussi à ramener l'apaisement et à rapprocher les deux communautés.
Je voulais tout d'abord dire qu'il n'y a pas deux communautés qui s'affrontent. Au Mali, il n'y a pas de problème Peul, au Mali, il n'y a pas de problème Degon. Les Degon et le Peul ont toujours vécu en parfaite symbiose, ont toujours vécu dans la fraternité, dans la cordialité. Au Mali, nous sommes un pays divers, mais un pays intégré.
Mais c'est loin de... ce que vous dites est loin de la réalité, monsieur le ministre.
Non, je voudrais vous dire tout simplement que c'est l'effort du Mali qui essaie aujourd'hui d'instrumentaliser. C'est l'effort du Mali qui, aujourd'hui, dans les pays qui sont en train.
Donc vous admettez qu'il y a eu des tensions entre ces deux communautés, mais quelle est la réponse du gouvernement face à cette situation?
La réponse du gouvernement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème Peul, il n'y a pas de problème Degon. D'ailleurs, on était avec le président de l'association de Peul à Kourou. On était avec le président de l'association de Guinan Degon, qui est le président de la réseau Degon du Mali. Ils ont tous promis la paix, de se donner la main. C'est l'effort du Mali qui sont ces terroristes qui veulent instrumentaliser les populations, puisque aujourd'hui ils se sentent vaincus. L'armée a commencé une offensive pour métalliser tous ces djihadistes. La seule solution pour eux, c'est d'essayer d'amener la djihadiste.
Excusez-moi, monsieur Koïta, j'ai l'impression, j'ai le sentiment, sauf si je me trompe, que le gouvernement est dans une stratégie de récusation de la réalité, mais est-ce que cela ne risque pas justement faire en sorte que le gouvernement ne prenne pas les mesures qu'il faut pour empêcher le problème de s'amplifier?
Vous savez, ce n'est pas facile de combattre le terrorisme. Ce n'est pas tout facile. Nous ne sommes pas le seul pays qui est confronté à ça. Les grandes puissances sont en train de combattre le terrorisme depuis des années. Maintenant, le gouvernement ne dit pas la réalité. Nous reconnaissons qu'il y a des problèmes. Voilà pourquoi nous avons invité les communautés de ces deux communautés, les Peul et le Degon, à ne pas se laisser abuser par ces forces humaines.
Oui.
D'ailleurs, nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés aujourd'hui que le Peul est compris qu'il n'y a pas de problème que le Degon. Les Degon ont compris qu'il n'y a pas de problème de Degon et Peul. Donc chacun doit se donner la main pour qu'ensemble nous combattions ces forces du mal qui ne cherchent aujourd'hui qu'à s'aimer, à instrumentaliser.
Oui, on comprend bien l'objectif.
Je suis de la communauté Peul. Je suis de la région de Morty.
Oui.
Je suis Peul. Je suis Gavando.
On entend bien, Amadou Koïta. On entend bien les objectifs que vous vous fixez, mais bon, la question qu'on se pose quand même, je pense que La grande majorité des Maliens se posent cette question-là, c'est qu'au bout de 5 ans du mandat de Ibeka, d'Ibrahim Boubacar Keïta, après 4 gouvernements, comment pouvez-vous réaliser en 4 mois, c'est-à-dire d'ici juillet prochain, date de la prochaine présidentielle, ce que vous n'avez pas pu faire, hein, ce que ce gouvernement, ce régime n'a pas su faire en 5 ans?
Non, vous savez, le président Ibrahim Boubacar Keïta a hérité d'un pays maintenant de l'État.
Oui, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Mais la situation sécuritaire s'est dégradée.
Il fallait travailler, oui. Il fallait mettre en place notre armée, il fallait équiper notre armée, il fallait renforcer notre armée. Donc tout ce travail, nous sommes en train de voir le
résultat. Et en même temps, la situation sécuritaire s'est dégradée sévèrement sur les 5 dernières années.
Non, c'est vous qui le dites. Vous savez,
c'est une réalité, parce qu'au départ, la menace était cantonnée dans le nord du Mali. Aujourd'hui, elle s'est étendue au centre, par exemple. Donc, objectivement, il y a eu dégradation.
Nous sommes en train de combattre cela.
Oui,
nous sommes en train de combattre tout cela. Aujourd'hui, la confiance est de retour. La population se sent mieux sécurisée. La population, aujourd'hui, apprécie la présence de l'État. Il n'y a pas de cercle au Mali dans le centre où l'armée du Mali n'est pas présente. Nous sommes en train de prendre les discussions nécessaires également pour que l'administration soit présente. Donc, c'est les efforts qui sont consentis et c'est les efforts qui continuent à être menés pour sécuriser, pour stabiliser le Mali.
Donc, vous annoncez des avancées notables, des avancées significatives dans les 4 prochains mois sur la question sécuritaire.
Dans les 4 prochains mois, nous rassurons les uns et les autres. Personne ne peut dire qu'il y a l'insécurité, la sécurité 100% ou l'insécurité 0.
Oui, bien sûr.
Mais tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de neutraliser les forces du Mali. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de stabiliser notre pays. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de sécuriser notre pays. Ce que nous sommes en train de faire, c'est également de poser des actions de développement. Puisque la solution n'est pas que militaire. La solution est également une question de développement. Et voilà pourquoi le Premier ministre, lors de sa tournée, a apporté des réponses à certaines préoccupations des populations. Des questions de court terme. On a pu immédiatement trouver des solutions. À moyen et long terme également, des actions seront menées dans le cadre, par exemple, de l'insécurité alimentaire, dans le cadre également de la réouverture des écoles qui ont été fermées, imposées par les forces du Mali. Et aujourd'hui, petit à petit, la situation est en train de se normaliser.
Merci. Francis, on va passer au prochain sujet.
Tout à fait.
Le débat BBC Afrique, Africa numéro 1 Paris.
Avec notre grand témoin invité depuis Bamako, Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, porte-parole du gouvernement du Mali. Et notre confrère invité depuis N'Djamena, Mahamat Adamou, journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de BBC Afrique. Nous allons justement à N'Djamena, nous allons au Tchad avec ce projet de révision constitutionnelle plutôt controversé, hein, au lendemain du Forum national inclusif sur la réforme des institutions qui a rendu sa conclusion mardi dernier. De nombreuses questions se posent sur l'avenir institutionnel du Tchad. Si le projet de révision constitutionnelle issu de ce forum, boycotté par l'opposition, porte sur des réformes administratives et territoriales, la question qui alimente tous les débats et controverses est bien celle de l'instauration d'un régime présidentiel dit intégral, avec la suppression du poste de Premier ministre, pas de vice-présidence non plus. Dans ce projet de 4e République, outre la suppression pure et simple de certaines institutions, telles que la médiature et le Conseil économique et social, la Haute Cour de justice et la Cour des comptes seraient réduits à de simples départements au sein de la Cour suprême. Réagissant à ce projet, l'opposant Saleh Kebzabo assimile ce régime présidentiel annoncé à un coup d'État orchestré par le président Idriss Déby, qui, selon lui, ne se satisfait plus de concentrer tous les pouvoirs entre ses mains, mais, je cite, « évolue désormais vers ce que les Africains appellent un demi-dieu ». Alors, première question à vous, Mahamat Adamou, vous qui êtes sur place au Tchad, en N'Djamena. Alors, c'est que dans un pays où les opposants se plaignent depuis des décennies d'une panne de processus de démocratisation, comment peut-on expliquer un tel projet qui, voilà, à y voir de près, instaure un régime dans lequel le président n'a plus de compte à rendre à aucune autre institution?
Oui, c'est un peu bizarre parce que le problème du Tchad, ce n'est pas un problème de réforme politique ou administrative. Le problème est structurel, il est plus profond. Déjà, la Conférence nationale souveraine de 1993 avait, malgré ses imperfections, avait accouché d'institutions crédibles. Le travail a été bien fait, le débat a été riche, et cette conférence était véritablement représentative de toutes les sensibilités tchadiennes. Mais cette fois-ci, on a assisté à un forum où seuls les partis alliés au pouvoir y ont pris part, ainsi que des associations de la société civile plus ou moins proches du pouvoir qui ont pris part. Et on notera évidemment que une bonne partie de l'opposition a boycotté, ainsi que une frange de la société civile. Donc ça pose la crédibilité même de ce forum. Cela dit, quel, quelles ont été les décisions qui ont été prises. Moi, je dirais que c'est plus des réformettes. On avait parlé de fédéralisme, comme si le fédéralisme allait résoudre le problème du Tchad. Et finalement, on n'a même pas retenu cette proposition, puisqu'on parle maintenant de décentralisation. Ce qui était déjà le cas avec la conférence nationale.
Oui, alors c'est vrai qu'il faut dire que le pays est aujourd'hui confronté depuis plusieurs mois à une sévère crise économique qui expose de nombreux fonctionnaires, notamment à des drames privés. Comment on peut comprendre que le pouvoir décide en ce moment même d'installer cette question au centre de l'actualité du pays? Est-ce qu'il n'y a pas plus urgent à faire, par exemple, apporter des réponses réelles, profondes, vigoureuses à cette crise économique?
Je pense personnellement que c'est une diversion. Je crois que le pouvoir n'a plus de solution. Et évidemment, il y a aussi l'illusion du pouvoir. Donc, Déby est à la tête de l'État depuis plus de 30 ans. La situation ne fait qu'empirer. On disait que le Tchad est un pays pauvre. Et puis après, il a commencé à exploiter son pétrole. Et pour quel résultat? Donc, le problème, c'est en fait la crédibilité des institutions. Les institutions actuelles qui sont en place sont crédibles, sont de bonnes mesures, mais il faut aussi appliquer la Constitution et l'état du droit.
Mais Mahamat, sur la suppression du poste de Premier ministre, certains Tchadiens disent que de toute façon, ça n'a aucune importance, ça n'a aucun effet, aucune incidence sur le fonctionnement du gouvernement, étant donné que le Premier ministre jusque-là faisait de la figuration et n'avait vraiment aucun rôle important.
Oui, je crois qu'il y a même un effet pervers dans la mesure où les premiers ministres au Tchad ont toujours servi de fusibles. Déby, en près de 30 ans de pouvoir, a usé de près de, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas plus de 16 premiers ministres, ce qui fait une moyenne de 2 ans, de 2 ans à la tête de la primature. Et cette fois-ci, puisqu'il a éliminé le poste de premier ministre, eh bien celui qui portera le chapeau.
Oui, mais il faut dire que le projet sera soumis à référendum, il faut le préciser quand même. Hein. Ce n'est pas une révision définitive.
C'est pas adopté, tout à fait.
Mais... Beaucoup soupçonnent déjà le résultat, que ce référendum sera.
Bon, de toute façon, on ne peut présumer de rien. Mais Mahamat, peut-être avant de passer la...
Absolument, il faut attendre de voir.
Exactement. Avant de passer la parole au ministre Amadou Koïta, je dois vous demander, est-ce que vous qui êtes au Tchad et qui connaissez sans doute mieux l'environnement et ce que pensent les gens de cette initiative de révision des institutions, est-ce que la réforme des institutions était vraiment la meilleure façon de faire des économies? Des économies au Tchad, parce qu'on a entendu les syndicats par exemple lors de la grève dire que que l'État aurait mieux fait de réaliser peut-être un audit du fichier de la fonction publique pour faire davantage d'économies.
Effectivement, beaucoup de propositions concrètes ont été soumises au gouvernement qui les a jusqu'ici ignorées. Déjà, vous avez noté la fonction publique, il y a un effectif pléthorique avec, dit-on, des faux diplômés, etc. etc.
Et déjà, c'est ce que disent les syndicats.
Ça pourra faire beaucoup d'économies. Oui, voilà, ce que disent les syndicats et les partis politiques aussi. De ce côté, on peut, mais le plus urgent, c'est d'enrayer la corruption, d'enrayer le détournement.
Mais pour rester dans le sujet, Mahamat Amadou, ce n'est pas avec une révision constitutionnelle qu'on règle des questions économiques.
Hein. Effectivement, ce n'est pas ça. Déjà, on ne sait même pas combien exactement ce forum a coûté, alors que les fonctionnaires sortent d'une longue grève épuisante, où tout le monde a souffert, les hôpitaux ne fonctionnaient pas, les enfants n'allaient pas à l'école. Il y a eu des tailles, des coupes dans les salaires des fonctionnaires, etc. Donc, dans ce contexte, Liliane demandait ce que les Tchadiens pensaient. Évidemment, les Tchadiens avaient la tête ailleurs.
Hey. C'est pas désintérêt total.
Monsieur le ministre Amadou Koïta, on va vous inviter dans ce contexte tchadien. Hein. Alors, parce que avec la suppression de plusieurs institutions qui participent quand même, je dirais, au principe d'un équilibre des pouvoirs ou qui peuvent jouer parfois le rôle de contre-pouvoir. Est-ce qu'on n'est pas là en train d'assister à un recul démocratique particulièrement inquiétant ? En même temps qu'un renforcement du pouvoir présidentiel.
Non, c'est les questions qui relèvent la souveraineté du cadre. Je pense que le cadre est un pays ami et pays frère. Tout le faire n'est pas indiqué dans ce débat.
Nous nous y attendions un peu, Ligal et moi, je crois, à cette réponse.
Oui, mais en même temps, peut-être vous allez peut-être commenter le boycott de ce forum par l'opposition et une partie de la société civile. Finalement, l'absence de ces deux entités n'a pas changé le cours de discussion et l'ordre du jour prévu.
Allô?
Oui, monsieur le ministre, je parlais de l'absence de l'opposition à ce forum et d'une partie de la société civile. Une absence qui n'a pas modifié le cours des discussions.
Non, je dis que c'est une question qui relève de la souveraineté.
Mais est-ce que vous regrettez cette décision de l'opposition ?
Je préfère ne pas me prononcer.
Et que ça décrédibilise un peu aussi le résultat de ce forum ?
Je dis que je préfère ne pas me prononcer sur cette question.
Bon.
C'est une question qui relève de la souveraineté.
Mais est-ce que, d'accord, est-ce que vous êtes satisfait du fonctionnement des institutions de votre pays ou bien vous estimez qu'il y a des choses qu'il faut peut-être envisager de reformer?
Ah, vous savez, on ne peut toujours pas faire. Nous, on avait tenté d'apporter une modification constitutionnelle.
Qui a été rejetée par la population.
De l'accord pour la paix et la réconciliation nationale et également au droit sous-régional.
Et qui a été rejeté par la population.
Ça n'avait pas été compris.
Contesté.
Puisque, à ce niveau, nous avions ajourné. Mais nous savons également que la révision constitutionnelle s'impose à nous tous. Il y a des changements qu'on doit apporter, puisque le monde évolue et il faut s'adapter.
Vous avez renoncé, Francis le disait, parce que l'opposition s'est opposée à cette initiative du gouvernement malien. Est-ce que si vous étiez à la place du président Déby, vous auriez peut-être renoncé à ce forum, à la tenue de ce forum, étant donné le boycott de l'opposition et d'une partie de l'opposition de la société civile?
Alors, vous savez, le Mali, c'est la réalité. Nous avons initié cette révision constitutionnelle. Et quand ça n'a pas été compris par une partie de la population, le président de la République a estimé devoir continuer avec les concertations.
Ce serait voilà peut-être le président Déby aurait dû faire, selon vous?
Je ne peux pas commenter les décisions qui relèvent des autorités du chef d'État tchadien. Le plus important pour nous, au Mali, aujourd'hui, c'est d'avancer dans le processus de la paix et de la réconciliation. C'est également d'adapter nos institutions à l'évolution du monde et aux réalités. Donc, au Mali, nous avons initié. On a dit, on continue avec les concertations, car nous savons que la révision constitutionnelle s'impose. Il y a un certain nombre d'équilibres qui doivent être amenés. Voilà pourquoi le président de la République avait proposé cette initiative, cette révision constitutionnelle.
François, peut-être terminer avec Mahamat sur les résultats de ce forum. Maintenant, il reste à les faire valider, Francis le disait, par le peuple tchadien. En attendant que cela soit fait, quelle est l'ambiance politique aujourd'hui? On voit d'une part l'opposition qui était contre, qui continue à protester contre les mesures sorties de ce forum. Mais est-ce que vous pensez que ça va peut-être changer quelque chose, Mahamat?
À mon avis, ça ne changera rien. Et vous parlez de l'atmosphère politique, eh bien, elle est morose. Il disait tantôt que le pouvoir ne semble pas avoir de solution. Eh bien, c'est la même chose que se dire de l'opposition politique. Elle réclame à la place de ce forum, elle réclamait et réclame toujours un forum inclusif. Je ne sais pas exactement de quoi il va discuter. On va discuter de tous les problèmes du pays. On l'a déjà fait pendant la conférence nationale, ça n'a rien résolu. Donc ce ne sont pas les forums qui vont résoudre les problèmes du Tchad. Ce sont des décisions politiques courageuses, l'application de l'état de droit, c'est la seule solution.
Vous parlez beaucoup de l'état de droit, Mahamat Adamou, rapidement. Près de 30 ans après la conférence nationale, que reste-t-il au fond dans votre pays du processus de démocratisation? Est-ce qu'on peut encore dire que la transition démocratique est en cours au Tchad?
Je pense qu'on ne peut pas dire ça, parce que jusqu'ici, toutes les élections qui ont été organisées ont été contestées. Il n'y a jamais eu une élection qui a fait l'unanimité, ça pose déjà un problème. Il y a un problème au niveau de l'appareil judiciaire. qui est souvent critiqué, et y compris par les magistrats eux-mêmes. Les institutions sont faibles, on constate une faiblesse de l'État, et puis, d'une manière générale, c'est le problème de bonne gouvernance qui se pose. Mmh. On ne peut pas dire que la démocratie fonctionne au Tchad.
Très bien.
Merci, Mahamat. Francis, on passe au dernier sujet.
Sans transition, peut-être.
Oui, si vous voulez bien, on va parler donc de l'Égypte, l'état de santé de l'ancien président Mohamed Morsi, détenu depuis 2013 à l'isolement, suscite de plus en plus d'inquiétudes. D'ailleurs, un groupe de députés et d'avocats britanniques a publié vendredi, au moment où nous enregistrons l'émission, un rapport commandé par la famille de l'ex-président Morsi qui va dans ce sens. Une inquiétude qui n'entame pas la mobilisation des partisans d'Abdel Fattah al-Sissi qui se prépare à travers l'Égypte à célébrer la réélection du président sortant. Les résultats officiels sont attendus pour lundi prochain, mais les médias publics annoncent déjà la victoire du président al-Sissi avec 96,9% des voix devant son unique adversaire, Moussa Mustapha. Celui-ci avait d'ailleurs réaffirmé son admiration pour son rival, M. Sissi, ce qui fait dire à certaines ONG de défense des droits de l'homme et l'opposition aussi que tout a été fait pour exclure la vraie opposition du processus. Et ce scrutin de cette semaine a été qualifié de farce. On écoute Khaled Daoud, leader du parti constitutionnel, qui dénonce.
Au cours des quatre dernières années, toutes les stratégies et certaines pratiques du président Sissi ont visé à empêcher l'émergence d'un candidat de l'opposition sérieux qui veut se présenter à une élection. Je ne nie pas qu'il n'y a pas beaucoup d'Égyptiens qui soutiennent le président Sissi. Mais l'élection ne consiste pas seulement à une démonstration de ses partisans, mais elle consiste aussi à échanger des idées entre plusieurs candidats et ensuite laisser le peuple égyptien décider. Et ce n'est pas ce que nous avons vu pendant cette élection.
Monsieur le ministre Amadou Koïta, c'est d'ailleurs l'ancien ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui a conduit la mission d'observation de l'Union africaine à ce scrutin. Mais quel commentaire faites-vous des accusations formulées par les ONG, des ONG et l'opposition, selon lesquelles le pouvoir a mis tout en œuvre pour exclure, éloigner, décourager ou empêcher les candidatures de vrais opposants à ce scrutin?
Dans les interventions que nous avons, le peuple égyptien s'est exprimé. Le peuple égyptien a fait son choix. L'élection s'est passée dans le calme, dans la sérénité. Et toutes choses qui passent pour renforcer la démocratie. Donc, c'est le commentaire que je peux avoir. C'est vrai, c'est notre collègue, ancien ministre de la coopération, des Affaires étrangères, de la coopération internationale, qui a conduit une délégation pour superviser les élections. Les élections sont passées dans le calme, dans la sérénité.
Oui, Amadou Koïta, on entend bien vos réserves que nous respectons, mais vous pouvez peut-être vous prononcer sur la qualité même de cette élection, parce que vous y êtes attaché quand même à la qualité des élections dans votre pays, le Mali. Quand on voit que le seul candidat face à Al-Sissi, Moussa Mustapha Moussa, partisan du régime, n'a pas tari d'éloges sur son concurrent tout au long de la campagne, quelle est la validité d'une élection sans réel adversaire où l'unique concurrent du président sortant s'est transformé finalement en son directeur de campagne?
Une élection est organisée pour donner la parole au peuple. La souveraineté n'appartient qu'au peuple.
Mais la qualité du résultat, la qualité de l'élection, le processus.
Le peuple égyptien s'est exprimé, respectant le choix du peuple égyptien. C'est ça le plus important.
Je vais vous poser. Mahamat Tadamou est moins soumis à un devoir de réserve, peut-être, qui peut répondre à la question. Quelle est la validité, la qualité d'une telle élection où le seul concurrent est devenu, je dirais, le promoteur même du président sortant?
Déjà, les crédits d'autour de 2% de voix, et lui-même n'en espérait avoir que 10%, c'est pour dire son poids.
Les médias parlent de 3%.
Voilà, d'accord, c'est pourquoi j'ai dit autour. Oui. Et ensuite, il faut voir aussi le taux de participation, ça c'est un des aveux.
C'est ça.
Le taux de participation, c'est moins de 50%, on parle de 42% pour le moment, si je me trompe.
42%, 43%, ouais. C'est qui pose après sa légitimité pour pour entamer ces réformes ou pour gouverner.
Mais du coup, Mahamat, vous diriez qu'il n'a pas ce qu'il voulait, puisque le principal enjeu, je le disais en début d'émission, c'était le taux de participation. Si finalement, il est plébiscité, mais avec un taux de participation de moins 50%, ça veut dire qu'il est élu, mais n'a pas la légitimité qu'il souhaitait.
Il est élu et mal élu. Et il faut dire que le pouvoir égyptien n'avait rien épargné pour que ce taux de participation soit acceptable. Il y a eu un encouragement des électeurs. Parfois même, on a...
Des menaces de sanctions.
À manger gratuitement, ouais, près des bureaux de vote. Il y a des chansons patriotiques qui tournent, qui sont diffusées, etc., pour inciter les gens à aller voter. Et on voit le résultat, environ 42%, c'est pas assez. Assez pour rendre, pour accorder une légitimité forte au président Sisi.
Du coup, je voudrais demander par conséquent au ministre Adama Amadou Koïta, quelles peuvent donc être ces urgences? Il y a le taux d'abstention qui est très fort, Mahamat le disait, mais quel sera donc finalement, ou par conséquent, si vous voulez, les priorités du président Sisi, même si on sait que la sécurité est en tête?
Allô?
Oui, monsieur Koïta, j'ai dit les priorités Oui, quelles doivent être les priorités? Est-ce qu'il doit tirer les leçons de ce taux d'abstention pour peut-être mettre en place des mesures pour intéresser les Égyptiens à la politique? Quelles sont les urgences, selon vous, du président réélu, si évidemment cette réaction est confirmée?
Je pense que le peuple égyptien a fait confiance au président Al-Sisi, qui est en train de lutter également contre le terrorisme, qui est en train également d'annoncer des actions de développement pour le peuple égyptien. Voilà pourquoi le peuple égyptien lui a réitéré sa confiance et nous lui souhaitons un bon mandat, comme là le tout-puissant soit avec lui.
Mahamat, Francis.
J'allais demander à Amadou Koïta, quel est aujourd'hui le protocole de coopération entre le Mali et l'Égypte? Ça porte essentiellement sur les questions sécuritaires?
Oui, nous avons tellement de relations excellentes avec les autorités égyptiennes. Le président Ibrahim Boubacar Keïta et le président Sisi ont de très bonnes relations. Il y a également des centres d'intérêt qui est la lutte contre le terrorisme et également des actions de développement pour être à hauteur des souhaits des attentes de la population.
Bon.
Mahamat, peut-être sur les priorités, les priorités du président réélu? En dehors de la sécurité et la lutte contre le terrorisme?
En dehors de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme, c'est déjà affirmer son autorité, sa légitimité, je veux dire. Comme on l'a dit, il a été mal vu. Il faut qu'il se fasse accepter par l'ensemble des Égyptiens, dans la mesure où beaucoup des candidats qui se présentaient, des candidats à la candidature, ont été éliminés.
Vous voulez parler de réconciliation, de vraie réconciliation qu'il doit peut-être entamer?
De vraie réconciliation et de vraie réconciliation avec les autres Égyptiens. De toute façon, l'Égypte, depuis Moubarak, a été toujours gouvernée par des hommes forts. Je ne sais pas si ça va changer. Et il faut aussi constater l'attitude des Occidentaux qui semblent se satisfaire d'un homme fort en Égypte plutôt que d'un vrai démocrate, puisque aucune pression n'est faite. Et malgré les critiques, les affaires...
Pour les droits de l'homme notamment.
Voilà.
Merci.
Et les droits de l'homme, évidemment, sont les grandes victimes.
Merci. Francis?
Oui, on va écouter les messages de nos auditeurs sur Internet. Message recueilli et livré tout de suite par Richard Mboué.
Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter @débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com/débat BBC Africa.
Bonjour Liliane, bonjour Francis, bonjour à tous. Voici quelques réactions des internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Sur le Mali, Diggy Konaté juge que la visite du Premier ministre malien Hakidal est purement politique. Selon lui, cette tournée n'a qu'un seul but, la présidentielle à venir. Mahamat Osanogo, quant à lui, se demande pourquoi est-ce que cette visite n'a lieu qu'à la fin du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta. De son côté, Mephis Kiti estime que le déplacement du Premier ministre Soumaïlou Boubey Maiga est une réussite. Le fait que l'on n'ait pas assisté à un remake de 2014 justifie selon lui à confirmer cela. Et pour Moussa Koné, cette visite annonce la tenue prochaine d'élections sur l'ensemble du territoire malien. Pourquoi Kidal et chaque fois Kidal, se demande Augustin Aboy. Il se demande aussi si Kidal serait une république dans une république. Sur le Tchad, Ozana Baïkontam qualifie le projet du président Idriss Déby Itno de machiavélique. D'après lui, cette révision va permettre à l'actuel chef de l'État de gérer le pays comme son bien personnel. À Charles Bazima d'enfoncer le clou et de dire que le forum n'arrange que le président et son parti et non le peuple tchadien. Winter Chains Yabai Yamra voudrait savoir si l'augmentation de ce mandat entrera immédiatement en vigueur ou bien c'est pour l'avenir. Moussa Ibni Moussa Abdoum souhaite connaître le point de vue de l'invité sur le fait que certains chefs d'État africains changent la constitution pour se maintenir au pouvoir. Et sur l'Égypte, Alseni Ba Diolo Koulounabé déclare que le président Abdel Fattah al-Sisi manque de légitimité au vu des taux de participation à cette élection présidentielle. Merci à tous. Merci de nous suivre sur notre page Facebook à l'adresse facebook.com/débat BBC Africa. Et d'ici là, portez-vous bien.
Merci Richard.
Un mot de conclusion à Amadou Koïta, peut-être en répondant à un des auditeurs qui parlait de la visite du Premier ministre dans le nord du Mali comme une visite électoraliste, à visée électoraliste.
Vous savez, il n'y a pas de temps pour la paix. La paix était dans le processus. Cette visite rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la Cour de la paix et de la réconciliation nationale. Cette visite également, c'est pour permettre à ceux que les enfants de ce pays se retrouvent. Dans 4 mois, nous allons organiser les élections qui constituent une étape extrêmement importante à la consolidation de la démocratie et surtout à la sortie de crise. Nous assurons aujourd'hui qu'avec le retour de la confiance entre tous les acteurs impliqués dans ce processus, avec ce vent nouveau qui souffle sur le Mali, c'est un nouveau Mali qui remet tous les Maliens dans l'écrasante majorité. Vous savez, notre Dieu n'est pas une amie. On peut apprécier cette visite. Et cette visite rentre dans ce cadre, que ce soit à Kidal, que ce soit à Tombouctou, que ce soit à Zaoué, que ce soit dans les régions du centre. Ce sont des Maliens, ce sont les peuples des Maliens. Et toutes ces populations ont exprimé leur appartenance au Mali, leur appartenance à un Mali indivisible.
Merci. Et nous excusons pour la qualité de la liaison avec le Mali.
Et Bamako.
Francis, oui, ouais, avec Bamako.
Amadou Koïta, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Amadou Koïta, ministre de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne, porte-parole du gouvernement du Mali. Merci également à vous, Mahamat Adamou. Vous êtes avec nous depuis N'Djamena, au Tchad. Vous êtes journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de BBC Afrique. L'émission a été réalisée à Dakar par Abdou Diop. Régie technique assurée à Paris par François Richard. Chargé de production, Sandra Bassabam et Richard Thierry Mboué-Kidjina. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur nos sites respectifs, africa1.com et bbcafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, Liliane, pour une nouvelle édition.
Oui, Francis, avec le même plaisir et aussi le même plaisir à retrouver les auditeurs, Francis. Bon week-end à vous.
Bon week-end à vous aussi. Bon week-end à toutes et à tous.